avant qu'on commence, prions pour que le Saint-Esprit me conduise, parce que c'est vrai qu'il y a le message, mais il faut qu'on se rassure que c'est le message de Dieu, pas celui de l'homme. Saint-Esprit, viens prendre contrôle, conduis-moi, dirige-moi, Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, prends ce cas Jésus-Christ, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ce temps dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus. Que les cœurs sont disponibles, Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Remplis mes pensées, Seigneur, de tes pensées, qui est les pensées de Christ, Seigneur. Et que ta parole soit relâchée. Merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Dans le message que le Seigneur a mis à cœur pour ce soir, c'est sur Jean 14, verset 30. J'ai partagé le test avec vous. Et le titre, c'est en fait, est-ce que tu as des choses qui appartiennent à Satan? Est-ce que tu as des choses qui appartiennent à l'ennemi? Quelles sont les choses qui appartiennent à l'ennemi? Donc, c'est ce qu'on va s'attarder aujourd'hui. Mais avant de commencer, mais avant d'entrer dans toucher ce sujet, je vais prendre notre illustration qui va nous permettre de comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire dans ce verset. Aussi le thème du verset de ce soir. Vous voyez, il dit souvent tantôt que le monde physique et le monde spirituel vont en parallèle. Il y a certains principes qui se font dans le monde physique et qui sont les mêmes dans le monde spirituel. Il y a certains principes qui sont dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, c'est la même chose. Dans le monde physique, en fait, dans le domaine de la loi, il y a un prosecuteur ou la police, celui qui souvent peut amener une personne devant le juge, disant que cette personne a commis un crime, que cette personne soit emprisonnée. D'un prosecuteur, il prosecute la personne. Et quand il va en fait devant le juge, il doit apporter des preuves. Il doit avoir des preuves tangibles qui doit montrer juste pour que le juge, en fait, mette une décision pour que cette personne soit coupable. Il va faire de son mieux, de son possible pour chercher ses preuves, pour avoir ses preuves, pour chercher les documents, pour chercher les ordonnances, pour regarder dans la loi qu'est-ce que la loi dit pour prouver son cas. C'est la première étape. Il va chercher des preuves. La deuxième étape, s'il n'y a pas de preuves, souvent, vous allez voir certains prosecuteurs, ceux qui ne sont pas honnêtes, ils vont pousser l'accusé à faire des erreurs. Ils vont mettre la pression à l'accusé. Ils vont faire des complots. Donc, ils vont faire des choses pour que l'accusé soit dans le fautif. Soit fautif. Vous allez voir certains policiers, ceux qui ne sont pas honnêtes, ils vont créer des preuves. Donc, ils vont essayer de pousser l'accusé à faire des erreurs, à faire des plans pour que l'accusé soit dans une situation où celui qui sort fautif. Pourtant, tangiblement, il n'y a pas de preuves. Il va essayer de le faire. Là, c'est la deuxième chose à faire. S'il n'arrive pas à faire cela, s'il n'arrive pas à avoir des preuves, il n'arrive pas à coincer l'accusé, à faire des plans, à créer des preuves. Souvent, certains vont toujours partir devant le juge. Même s'ils n'ont rien, même s'ils n'ont pas de preuves, souvent, certains prosecuteurs sont tellement assoiffés, ils veulent tellement arrêter quelqu'un, ils veulent tellement... vous voyez ça dans la politique. Donc, même s'ils n'ont pas de preuves, ils vont juste aller devant le juge. En espérant que le juge va leur donner faveur. Peut-être qu'ils connaissent le juge, peut-être qu'ils sont amis avec le juge, mais peut-être que le juge sont de même parti politique. En espérant trouver une faveur auprès du juge. Ou bien ils vont peut-être aussi espérer que la personne même fasse des fautes, mais que la personne ne puisse pas se défendre. Il y a des cas, en fait, la personne ne peut pas se défendre, la personne n'a pas un grand avocat. Et là, parce que la personne ne connaît pas la loi, monsieur le prosecuteur n'a pas beaucoup de preuves, il peut remporter cela. Donc, il va compter en fait sur l'ignorance de l'accusé pour avoir son, pour que son cas soit écouté et pour qu'on lui donne raison. Parce que c'est le plan naturel. Et c'est aussi similaire dans le plan spirituel. C'est aussi un plan que l'ennemi utilise. L'ennemi passe par ces trois étapes. Il cherche des preuves. Il va vous pousser à faire des erreurs pour utiliser ces preuves. On va partir voir le juge et il va compter sur votre ignorance. C'est ça. Donc, en comprenant cela, on entre maintenant dans Jean 14, verset 30. Voyez ce que le verset nous dit. C'est le verset sur lequel on va s'appuyer ce soir. Ça dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde, il n'a rien trouvé à moi. » Ça, c'est Jésus-Christ qui entre parler. Judas, il était sur la table, ils ont mangé. Et Judas est parti pour partir appeler les soldats pour combien d'arrêter Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples qui vont partir à Gethsemane, le mont des Olives, pour prier. Donc, c'est dans cette scène-là que Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses disciples. Mais il sait que son heure est arrivée. Il sait que son heure est proche. Et il dit, Dieu ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. C'est qui le prince de ce monde? On sait que le prince de ce monde, c'est Satan. Ici, quel est son rôle? Il a plusieurs rôles. Il porte plusieurs chapeaux. Mais ici, en fait, Jésus-Christ l'appelle, le reconnaît comme l'accusateur. Selon le contexte de ce verset, Jésus qui refait à lui comme l'accusateur. Parce que c'est sur le serpent, c'est aussi le dragon. Mais il opère avec plusieurs faces. Mais ici, il est l'accusateur. Et Jésus-Christ reconnaît en fait, c'est sa stratégie qu'il va utiliser. On va parler de ça plus tard. Apocalypse 12, verset 10, dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Et si on souligne l'accusateur, dont le diable, Satan, accuse. Ici, Jésus-Christ fait référence à l'accusateur. Et il parle en fait, le contexte qu'ils utilisent aussi, c'est dans le contexte légal. Ici, on peut dire que l'ennemi va chercher à l'accuser. Que le plan que l'ennemi a, c'est qu'il va essayer d'utiliser contre lui, c'est l'accusation. Il y a plusieurs stratégies, mais ici, c'est que c'est l'accusation. Et là, ce qu'il dit à frère, il dit, il vient. Il vient. Donc, Jésus-Christ est en train de se préparer à une bataille. Il sait quand l'ennemi est en train d'arriver et il se prépare. Mais bien aimé, est-ce que vous vous préparez à vos batailles? Est-ce que vous savez quand l'ennemi va opérer? Pas seulement quand, comment il va opérer? Quelle stratégie il va opérer? Est-ce que vous êtes prêts? Ici, on va voir comment Jésus-Christ va faire. Il savait que l'ennemi venait. Donc, même avant la bataille, non seulement il connaissait déjà le résultat de la bataille, mais il connaissait la stratégie que l'ennemi devait utiliser et les outils qu'il devait utiliser. Il savait que l'ennemi devait venir comme accusateur. Il devait utiliser l'accusation, le mensonge. Donc, il a compris cela. Donc, les outils que l'ennemi utilise, la stratégie qu'il utilise, ça peut nous permettre de bien nous préparer pour sortir vainqueur. Et si Jésus-Christ, il a dit, voici la stratégie de l'ennemi, il a dit qu'il est vainqueur. Donc, dans cette stratégie qu'il veut utiliser, que lui, il est vainqueur. Dès qu'il veut la stratégie, il veut les outils, il veut le fait que les vainqueurs. Dans cette phrase-là, dans tout ce que l'ennemi Satan cherchait à faire ce temps-là, il a résumé ça là-bas. Il a donné le verdict. Wow. Vous imaginez, bien aimé, il passe une situation arrive. Vous savez la situation, vous savez la stratégie, vous savez le résultat. Donc vous marchez dans la paix. Il était venu comme accusateur. Donc, quant à nous, ça nous appelle aussi de marcher dans ce chemin que Jésus est en train de marcher. De connaître en fait nos combats. De connaître en fait les outils que l'ennemi veut utiliser. Parce que la Bible dit qu'on ne soit pas ignorant des outils de l'ennemi, des stratégies de l'ennemi. De connaître en fait ce qui vient, ce qui s'en vient. Que ce soit qu'on va au travail, que ce soit qu'on est avec la famille, que ce soit qu'on marche avec les amis. Donc en fait, ça va nous permettre de nous préparer pour cela. Ça demande en fait une préparation. On se connaît quelle stratégie l'ennemi va utiliser. Est-ce qu'il va venir comme un serpent? Est-ce qu'il va venir comme un dragon? Est-ce qu'il va venir comme l'accusateur? Qu'est-ce qu'il va porter? Jésus-Christ connaissait déjà cela. Donc on ne doit pas ignorer la stratégie de l'ennemi. On doit être comme Jésus-Christ et dire en fait, il vient, il arrive, mais je suis vainqueur parce qu'il n'a rien trouvé à moi. Donc ici, je veux que souligne que l'ennemi vient. Il dit ça, l'ennemi vient. Et si l'ennemi est venu contre Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Que si le maître est persécuté, les serviteurs seront aussi persécutés. Ça veut dire qu'il va aussi venir contre les serviteurs de Dieu. Et comme un accusateur, il va aussi chercher à accuser les enfants de Dieu. Si vous vous souvenez de Josué, dans l'Ancien Testament, le souvenir du sacrificateur, la Bible dit que Satan l'a accusé parce qu'il portait les habits sales. Et Dieu lui a donné de nouveaux habits. Tu te rappelles Adam et Ève? Il est venu, il les a trompés, il est venu. Donc il va venir contre les enfants de Dieu parce que nous aimons le Seigneur, nous servons le Seigneur nous aime et il déteste cela. Il va venir aussi pour nous accuser, pour nous combattre. Il vient pour faire quoi? Un persécuteur vient pour accuser. Donc quels sont ces outils? Qu'est-ce qu'il peut utiliser? Qu'est-ce qu'il veut utiliser? Il veut utiliser le péché, le mensonge. Mais si Jésus-Christ, il s'attend à un face-à-face. Donc il sait en fait ce que l'ennemi va déjà faire. Mais ici, on te dit que l'ennemi n'a pas de poids. L'ennemi n'a rien. Comme malgré le fait qu'il vient, il vient sans puissance. Comme malgré le fait qu'il y a une confrontation... Il n'y aura pas de... Il n'y aura même pas de confrontation. Et c'est parce que vous imaginez, vous partez confronter quelque chose, vous partez confronter votre ennemi, vous vous rendez compte qu'il y a la confrontation, mais votre ennemi est déjà sans puissance, est powerless. Il est déjà vaincu, effectivement. Vous partez pour une confrontation, mais vous savez que l'ennemi est vaincu. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il dit, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient. Et il n'a rien à moi. Il vient déjà comme étant vaincu. Donc il ouvre un cas, il ouvre un cas, il porte une plainte qu'il a déjà perdue. Il porte une plainte sans preuve. Et cette même victoire dans laquelle Jésus est en train de marcher, le combat qu'il va faire avec un ennemi vaincu, c'est l'héritage aussi qu'il donne aux chrétiens. De faire des combats avec un ennemi qui est déjà vaincu. J'ai dit, mais ce n'est pas parce qu'il est vaincu qu'il ne va pas venir. Jésus-Christ a dit qu'il vient. Donc même dans sa défaite, il va chercher à venir. Mais on a savoir que nous, étant chrétiens, on a déjà la victoire. Jésus-Christ nous donne sa victoire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il n'a rien en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi n'a rien contre lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de tangible. Il n'a pas de preuve contre Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'a rien qu'il veut utiliser
pour rendre Jésus-Christ coupable. Mais ici, c'est dans le domaine de la loi. Donc, c'est vous voyez comme un policier qui arrête quelqu'un, mais qui cherche à arrêter quelqu'un. Il se rend compte qu'en fait, il n'a rien pour arrêter cette personne. Que sur le plan de la loi, il n'a aucune raison pour l'arrêter. Donc, il n'a rien. C'est ce que Jésus est en train de dire. Que l'ennemi n'a rien. Que cela soit sur notre partage. Parce que Jésus l'a aussi fait pour nous. Cette victoire qu'il a contre l'ennemi. Un combat, un face-à-face avec l'ennemi qui est déjà vaincu. C'est ce qu'il nous dit dans Colossiens. Il nous dit dans Colossiens. Qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens? Il dit en fait qu'il a dépouillé les principalités, les puissantes dominations, les esprits méchants. Qu'ils ont été dépouillés à la croix. Donc à cette croix, c'est là que Jésus-Christ les a vaincus. Et avant cela, il dit aussi que tout ce qu'ils avaient contre nous, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient, les ordonnances, tout, ont été effacés. Donc là, le même combat que Jésus-Christ est en train de faire, combattre un ennemi vaincu, c'est aussi cette victoire qu'il nous donne. Donc en fait, on entre dans une victoire, on entre dans un combat qui a déjà été gagné par Jésus-Christ. Donc on entre dans un combat qui a déjà été gagné par Jésus-Christ, par ce qu'il a fait. D'un combat d'adversaire vaincu. Mais, la Bible dit qu'il y vient. Il va rôder, il va chercher à trouver une porte. Donc, en fait, ce que l'ennemi pouvait utiliser, il n'avait rien. Il n'avait rien. Rien contre le Seigneur. À ce sein de partage. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'ennemi a quelque chose contre nous? Est-ce que l'ennemi a quelque chose contre nous? Jésus qui dit que l'ennemi n'a rien en lui, qu'il lui n'a rien qui appartient à l'ennemi. Est-ce qu'en nous, nous avons des choses bien même qu'on a été justifié? Est-ce que nous créons des choses en nous qui appartenons à l'ennemi? La question qu'on doit se poser. Et quand il dit qu'il n'y a rien, ça parle du péché. Parce qu'on a un péché en nous que l'ennemi va chercher à réclamer. Donc le péché, ça commence par où? Le péché commence, c'est une origine. Il y a un commencement. Ouais, on ne se lève pas juste en péchant. Le péché, ça commence dans la pensée. Ça se conçoit. Le péché est conçu. Avant d'être exécuté. C'est vrai que Jésus-Christ a dit, mais si vous regardez une femme, si vous convoitez une femme, vous avez déjà péché. Donc même avant même l'action, si dans la pensée ça a été fait, si dans la pensée ça a été, créé, ça a pris naissance, même avant que l'exécution n'arrive, c'est le péché. Donc même avant que l'exécution n'arrive, vous avez déjà quelque chose qui appartient à l'ennemi. Dans Jacques 1, 14, 15, ça dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, quand on est tenté, qu'on a une situation face de nous, qu'on voit peut-être des choses. En fait, qu'on fait des interactions avec ce monde, parce que si nous sommes dans ce monde physique, on a une interaction avec les choses du monde physique. Que ce soit ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu hier, ce qu'on voit à la télé, les interactions avec les personnes autour de nous, il y aura ces interactions. Et pendant ces interactions, il y aura la tentation pour être tenté. Mais il dit maintenant la convoitise
Où est-ce que la convaincu sort? Ça vient du cœur, ça vient de la tête. Donc, dès qu'on veut quelque chose, lorsqu'on convoite quelque chose, lorsqu'elle a conçu, enfante de péché. Donc, c'est-à-dire peut-être le mensonge. Là, quand on commence à penser comment on va mentir, dès qu'il y a cette sémence, ça produit le péché. Le vol. On veut quelque chose qu'on n'a pas. On convoite quelque chose qu'on n'a pas. Et là, maintenant, pour l'avoir, la solution qu'on trouve, c'est de voler. On cherche comment on va prendre cette chose. Ça produit le péché. Le mensonge, comme je dis tantôt. Mais en fait, ça commence toujours dans la tête. On peut-être que passer un examen, on peut-être que se marier. On cherche une solution, comment on va faire? Peut-être qu'on va partir voir le Ganga. Là, ça commence un péché. Qu'il y a des, une semence qui est déjà là. Quand c'est consumé, ça produit la mort. Donc tout commence à la tête, dans la tête. Vous allez voir souvent une situation. Vous-même, vous réfléchissez, qu'est-ce que vous devez faire? Vous connaissez le bon chemin, vous connaissez le mauvais chemin. Est-ce que vous devez faire ça? Les querelles, les disputes. Vous-même, vous réfléchissez d'abord, vous pensez, mais si il dit ça comme ça, ça va créer comme ça. Souvent la conception, bien la semence est tellement grande, tellement grandie, que directement, on a un peu trop de temps de penser, c'est juste dans les querelles, dans les disputes. Donc, c'est ces semences-là qui peuvent être dans les pensées d'un chrétien et que l'ennemi peut réclamer. Mais Jésus, il n'avait aucune conception du péché, car les fruits qu'il avait sont les fruits de l'esprit. La paix, l'amour, la joie, la patience. Ce sont ces fruits, en fait, qui grandissaient en lui. Mais s'il y a d'autres fruits, les fruits de la chair qui grandissent en nous, ça va conduire au péché. Donc, quelle semence avons-nous dans notre vie? Quelle semence avons-nous dans notre tête? Quelle semence a déjà grandi et peut-être que produit déjà des fruits dans nos vies? Ça veut dire qu'on fait déjà ça, on consomme même déjà cela. Certaines semences sont juste prêtes à être consumées, ça attend juste le bon moment. La question qu'on doit se poser, c'est que s'il y a cela, l'ennemi va chercher à réclamer cela. C'est comme, bien aimé, une poubelle qui est vraiment sale, comme quelque part. Les mouches vont venir. Quand vous utilisez les savons, quelque chose que vous utilisez pour purifier, tant qu'il y a cette poubelle, les mouches seront, ça va attirer les mouches parce que ces poubelles ont quelque chose que les mouches aiment, qui appartient aux mouches dans la nourriture, des mouches. C'est la même chose avec le péché. Même péché non conçu, péché une semence. Quand c'est là, ça va attirer l'ennemi. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'entrer dans une maison pour savoir qu'une maison est sale, pour savoir qu'il y a une odeur. Une poubelle dans une maison qui sent vraiment mauvais, même si tout est fermé, juste en sentant l'odeur de la poubelle, vous savez que dans cette poubelle-ci, il y a une maison. Donc si physiquement, peut-être que les gens tout ne peuvent pas savoir, mais si dans votre tête, il y a toujours ces pensées négatives, bien vous mal parlez aux gens, vous maltraitez les gens, et c'est pas ce ciment du péché, ça va attirer l'ennemi. On doit être comme Jésus-Christ. Il n'a rien en moi. Il n'y a pas de péché, de semence de péché en nous. Donc, qu'est-ce qui est dans nos pensées? Est-ce que ce sont des pensées qui sont propres? Et que ces graines ont déjà été enlevées? Et que ces graines ont déjà été déracinées? Le verset lui dit, même s'il n'y a rien, Il va chercher à rôder. Et dès que ses odeurs sont là, dès que ses pensées sont là, c'est là qu'il va chercher à entrer. Donc, étant justifié en Christ, Christ a tout payé, on doit aussi faire notre part. On doit garder cette victoire. Bien aimé, on a cette victoire déjà en Christ, on marche à cette victoire en Christ, mais on doit la garder.
on doit la garder. Ça se garde. La victoire se garde. Disons ceci. Prenons l'exemple d'Adam, Adam et Ève. Allez voir comment l'ennemi a planté quelque chose en eux. Il y avait une semence qui était à eux. Cette semence a mûri, a été consommée. Dans Genèse 3, vous connaissez bien l'histoire. Le serpent est venu parler à Ève. Et le serpent a menti par rapport au commandement de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Il a dit, mais est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit que vous devez mourir? Et donc, dans verset 6, Genèse 3, verset 6 dit ceci, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oh là là. Ici, cette semence, le mensonge que l'ennemi, que le serpent avait dit, avait relâché, était devenu une semence dans la tête d'Ève. Et ça grandissait déjà. Ça voyait les fruits. Le fait que ça était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle avait déjà accepté cela. Elle avait accepté cette semence négative. Le fait qu'elle a vu, elle a regardé le fruit, que c'était bon à manger, c'était agréable. Elle avait déjà accepté cela. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle avait déjà pris ce qui ne l'appartenait pas. Elle avait convoité ce fruit qui a conduit au péché. Étant consumé, a conduit à la mort. Donc, bien vous allez voir dans certaines situations, il y a certaines choses qu'une personne va vous dire. Et c'est à vous d'accepter ça ou de rejeter cela. C'est à vous de dire non, c'est un mensonge. Mais beaucoup, en fait, peuvent accepter ce mensonge, peuvent être confortables avec ce mensonge. Et dès qu'ils sont confortables avec ce mensonge, cette graine, cette semence, ce mensonge trouve une terre fertile et grandit. Cette personne maintenant commence à faire quoi? Appliquer ce mensonge. C'est-à-dire que ça produit les fruits. Je m'en suis causé avec une personne, et cela quelques semaines, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu en penses par rapport à la fornication étant un chrétien? Il me dit, mais qu'il a grandi dans cela, qu'il est né dans un monde où en fait c'était déjà normal, que c'était déjà autour de lui, et qu'il a vraiment grandi dans cela, que c'est maintenant difficile parce qu'il est déjà dans cela. Donc ça, c'était en fait une parole, une semence qu'il a reçue, une information qu'il a reçue. Il a séparé cette information et ça a produit des fruits. Dans certaines informations qu'on va recevoir, il y a certaines informations qu'il va lancer, des pensées qu'il va lancer. Il va lancer tellement de choses. Parce que tant que nous sommes dans ce monde, on va interagir avec ce monde. Il y aura des informations qui vont être bombardées à nous tout le temps. Dans ces informations, il y aura des semences de l'ennemi. Il va chercher à jeter des graines pour voir si ça va pousser. Il va chercher à jeter, à jeter, à jeter, à jeter, à jeter. C'est pour ça qu'on parle d'être tenté. Donc, si vous convoitez ces graines, si vous prenez ces graines, vous la plantez, si ça trouve un cœur qui est fertile, une terre qui est fertile, si vous acceptez ce mensonge, vous laissez les garder ce qui ne vous appartient pas. Vous laissez les garder ce qui appartient à l'ennemi. Donc il faut rejeter cela. Les graines peuvent être lancées, mais c'est à nous de les rejeter. Il y aura des pensées souvent bizarres qui vont venir. C'est à nous de dire non, de les rejeter. Et alors souvent, on va manquer de patience avec les enfants. C'est à nous de dire non, de les rejeter. Souvent, c'est juste le bombardement. Souvent, on sait, mais tellement qu'il y a la pression, tellement qu'il y a beaucoup de bombardements, souvent, on peut céder. Mais ne convoitons pas cela. Ne chérissons pas cela. Rejetons cela. Disons toujours non. Dans nos pensées, disons pas, oh, on va bien réfléchir. Disons toujours non, écartons cela. Mais quand vous dites non, vous mettez ça à côté, vous conduisez et vous continuez. Si vous ne dites pas non, quand vous gardez sa main. Donc il faut dire non à cette semence de l'ennemi. Il faut dire non. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi avoir des semences qu'on ne sait pas qu'on les a. En fait, on ne sait pas que c'est là. C'est souvent face à une situation qu'on se rend compte que waouh, dans cette pensée était là, dans cette semence était là, dans cette envie était là. Pourtant, avant, on ne savait même pas. C'est pour ça que c'est face au test qu'on est bien serré, qu'il y a certaines choses qui sont nous qui ne doivent pas être là, qui doivent sortir face au test. Maintenant, dans cette situation, comment on fait pour se préparer contre cela? Comment on fait pour se préparer contre ces cas? Contre ces semences, peut-être qu'on ne sait même pas qu'on a. C'est comme un jardin, Et là, on n'a pas planté les mauvaises semences, mais ça sort juste du sort. Comment on doit se préparer contre cela? Comment on le fait? Bien aimé, c'est par la parole. C'est par la parole. La parole, en fait, va venir identifier ces semences qui sont négatives. La parole va venir checker, ça va venir invalider ces pensées qui ne sont pas de Dieu. La parole va venir éliminer ces fruits qui sont cachés. Mais que là, maintenant, quand ça vient, on va dire, oh, mais non, la parole de Dieu dit ceci. Donc, c'est quand on est ancré de la parole. C'est quand on fait les semences de la parole de Dieu. Parce que notre jardin, notre cour, notre cœur ne doit pas être vide. Si c'est vide, deux choses peuvent arriver. Il va lancer des graines, ça va pouvoir grandir. Et même si on rejette toutes ces graines, il y a toujours des graines qui sont là, des semences qui vont juste monter, peut-être qu'on ne sait même pas. C'est vrai qu'avec la parole, il faut que nous-mêmes, on plante. Je rappelle l'histoire que Dieu a dit que quand on chasse un démon, il va revenir, il va chercher sa maison. Si la maison est bien ornée, il va chercher à entrer. Parce qu'il n'a pas trouvé la parole, parce qu'il n'avait pas la parole, parce que la maison n'était pas protégée avec la parole. Donc il faut que la parole grandisse en nous. Ce n'est pas juste dire je vais éviter de faire les choses de l'ennemi. Non, c'est être rempli aussi de la parole. Parce que dans la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, elle est remplie de la parole. Donc, il faut qu'on ferme ces portes. Maintenant qu'on est rempli de la parole, maintenant que l'ennemi n'a rien en nous qui l'appartient, on doit maintenant protéger nos pensées, comme je disais tantôt, par la parole. Et regardons ce que la parole vient nous dire, comment protéger ses pensées. Avec la parole de Dieu, là c'est maintenant être, on va être plus spécifique. Dans Romains 12, verset 2, ça dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on connaît bien ce verset. Donc on doit être renouvelé, notre pensée doit être renouvelée, notre intelligence doit être renouvelée. Ce sera une tendance à penser comme les pensées de ce, comme les gens de ce monde. Et là, ça sera plus susceptible à voir des choses de l'ennemi, à garder des choses de l'ennemi. Souvent, vous ne savez même pas. Dans renouvelant l'intelligence, on rejette, on se prépare à rejeter ce qui n'est pas de Dieu, car la Bible dit, ça va nous permettre de discerner. Le renouvellement de l'intelligence nous permet de discerner la volonté de Dieu. Si avec ce renouvellement de l'intelligence, elle devait discerner la volonté de Dieu. Ève. Donc, ça nous permet de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et quand on connaît ce qui est de Dieu, on connaît ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, protégeant notre pensée, bien-aimé, renouvelons notre intelligence.
1 Corinthiens 2, 16 dit ceci. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ.
Donc, nous devons avoir la pensée de Christ.
La Bible dit d'avoir la pensée de Christ. Donc, ce que Christ pensait, c'est ça qu'on doit aussi penser. Si on n'a pas la pensée de Christ, on va garder les choses qui appartiennent à l'ennemi. On peut être capable de dire que l'ennemi n'a rien de lui à nous. On doit avoir la pensée de Christ. Ce que Christ pensait le matin, ce que Christ pensait à midi, ce que Christ pensait le soir, ce qu'il pensait qu'il avait les conversations, ce qu'il pensait qu'il faisait face aux oppressions, qu'il faisait face aux vallées, qu'il faisait face à des situations difficiles. Qu'est-ce qu'il pensait? Parce que c'est souvent dans ces situations difficiles, en fait, que nos pensées peuvent changer et faire des choses qui ne sont pas du Seigneur. Quelles sont ces pensées de Christ pour être plus concret? Quelles sont ces pensées de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cela? Voici les pensées de Christ. Dans Philippiens 4, 7 à 8, dit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, ça souligne encore. Donc, notre cœur et nos pensées, nos cœurs et nos pensées doivent être gardés en Jésus-Christ. Parce que si c'est gardé en Jésus-Christ, et Jésus-Christ a dit qu'en lui, l'ennemi n'a rien trouvé, c'est lui qu'à nous, l'ennemi ne va rien trouver. Nous sommes qu'on garde notre victoire. Donc, est-ce que nos pensées bien-aimées sont gardées en Jésus-Christ? Quand on va au travail, quand il y a un gros cœur qui nous dérange, une personne au travail qui nous dérange, est-ce que c'est gardé en Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on enlève nos pensées de Jésus-Christ? Quand notre boss, notre superviseur qui nous dérange, et que c'est gardé en Jésus-Christ? Ou bien quand on conduit une personne qui est devant nous, qui perd le temps, est-ce que c'est gardé en Jésus-Christ? Quand il y a pression de chaque jour, est-ce que face aux pressions de chaque jour, nos pensées sont gardées en Jésus-Christ? Mais qu'on devait à recevoir quelque chose, on n'a pas reçu. On devait recevoir un cadeau, on n'a pas reçu. On devait recevoir quelque chose, mais ça ne s'est pas arrivé. Est-ce que nos pensées sont en Jésus-Christ? Nos pensées doivent toujours être en Jésus-Christ. Si on peut se réveiller, on n'a pas une bonne mine. Mais est-ce qu'on garde toujours notre pensée en Jésus-Christ quand on n'a pas une bonne mine? Et que c'est toute la maison qui va être dans une atmosphère désagréable? Non, on doit garder nos pensées en Jésus-Christ. Quand on est chrétien, il n'y a pas de mauvaise mine. Quand on est chrétien, en fait, il n'y a pas de mauvaise mine. D'abord, prendre cette mauvaise mine, on doit garder en Jésus-Christ. Donc, rappelons-nous toujours tout le cœur et les pensées gardées en Jésus-Christ. Le cœur, ça, c'est notre histoire. Que souvent, on peut être tellement dessus par les hommes. Mais gardons ça en Jésus-Christ. Les hommes peuvent chercher à piétiner notre cœur. Et si vous voyez la douleur, on doit le garder en Jésus-Christ. On doit garder aussi notre cœur. Ah, c'est un sujet pour notre temps. Comment garder notre cœur en Jésus-Christ? Mais pour les pensées, ainsi c'est que ça dit au verset 8. C'est le verset 7, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. On a lu ce verset avant. Là, on retouche encore cela. Donc, pour garder nos pensées en Jésus-Christ, pour avoir la pensée de Christ, voici ce que Christ pensait en fait. Ça, c'est la pensée de Christ. Il pensait de tout ce qui est vrai. Il est la lumière du monde. Il est la vérité. Donc, tout ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ pense. Nous devons aussi penser à cela, tout ce qui est vrai. Bien aimé, souvent, on pense de tout. Au lieu de penser ce qui est vrai, on pense de ce qui est mal. C'est-à-dire que quand on nous présente quelqu'un, au lieu de voir ce qui est vrai de la personne, au lieu de voir les bonnes choses directement, c'est comme ça de penser, on commence à penser des choses négatives à la personne, de voir la personne négativement, d'abaisser la personne. Là, c'est une de réflexion parce qu'on est dans le monde. Dans notre intelligence doit être maintenant renouvelée. C'est que pour nous dire,
Donc, en même temps, entraîner notre intelligence à dire non, ça c'est un vrai. Pensez ce qui est vrai. Pensez des bonnes choses. Pensez des choses qui vont élever le vrai. Soit ça va dans les paroles. On raconte que la première fois, tout ce qu'on veut dire, c'est que je suis négatif. Je dis que je suis positif. C'est parce qu'on est dans le monde. Donc cherchons Christ, en fait, ce qui est vrai. Cherchons ce qui est vrai. Évitons le mensonge. Tout ce qui est vrai. Ce qui vient après. Tout ce qui est honorable. Donc, en fait, nos pensées doivent penser des choses honorables. Comment on fait pour honorer notre pensée? Est-ce que ce qu'on fait dans notre vie est honorable? Est-ce que la manière de faire des choses dans notre vie est honorable? Est-ce que la manière dont on parle à telle personne est honorable? C'est ça la pensée de Christ. Christ pensait comme ça. Ce qui est honorable, est-ce que nous honorons les gens dans notre vie? Et ça, c'est pas quelque chose qui vit automatiquement, bien aimé. C'est quelque chose qu'on doit reconnaître, renouveler, on doit renouveler, on doit renouveler. Donc, pensons aux choses qui sont honorables. Suivant, tout ce qui est juste. Christ pensa à ce qui était juste. Il pensa à ce qui était juste. Ne cherchez pas à couper les gens, à voler les gens. À ce qui était juste. Mais souvent dans le monde, notre première pensée, c'est comment on peut faire ce qui va nous donner avantage. Comment on peut faire les choses qui vont. Comment on peut faire les choses qui vont chercher à diminuer les autres personnes ou bien voler autres personnes pour qu'on soit dans l'abondance. Mais ce n'est pas de cela. Et une pensée, tout ce qui est juste. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que c'est juste au prochain? Est-ce qu'on abuse du prochain? Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on fait les choses qui sont justes? On a pensé à ça. Tout ce qui est pur. Quand ils étaient tantôt bien-aimés, ce sont les choses qui doivent rester, qui doivent demeurer. Est-ce que les actions qu'on pose sont les actions qui sont pures? Et que les pensées qu'on pense sont pures? Parce que les ennemis vont essayer d'envoyer des pensées impures. Donc, de les discerner, est-ce que ces pensées sont pures? Parce que Jésus-Christ avait ça pour se protéger de la convoitise. On doit se rassurer que les pensées, que ces semences sont pures, que les semences qui doivent grandir dans nos pensées sont pures. Celles qui sont pures, on enlève, on dit non, on met de côté. Tout ce qui est aimable, waouh, ça c'est autre chose. La Bible dit, parce qu'à la fin des temps, que les situations seront difficiles, l'amour de plusieurs vont diminuer. Mais ici, il nous dit, pensez ce qui est aimable. Christ pensait de ce qui était aimable. Christ avait la compassion. Est-ce qu'on pense des choses qui sont aimables? C'est facile d'oublier ceci. D'oublier d'aimer les autres. C'est facile de le faire. Parce que quand on parle maintenant d'aimer, c'est-à-dire que tu fais un pas de plus. D'aller vers la personne. De chercher le bien de l'autre personne. Savoir comment, ce que vous pouvez faire pour le bien de l'autre personne. Ce qui est aimable. C'est ça la pensée de Christ. Si vous avez son ancien de pensée, bien aimé, il n'y aura pas d'accès. Ça sera difficile. Parce que tout ça, c'est tellement. Le Saint-Esprit est dans ceci. À gauche, à droite, devant, derrière. Tout ce qui mérite l'approbation. Waouh! Vous voyez ceci? C'est qu'on doit être content de servir le Seigneur. Donc, au lieu de fuir de cela, on va courir vers ça parce que ça mérite l'approbation. Quand l'approbation, ce n'est pas les choses du monde. Ce n'est pas le premier à s'asseoir à la première place. C'est l'approbation selon le royaume de Dieu. Ce qui doit être approuvé. Peut-être tant de prières, ça mérite l'approbation. Tant de lecture de la parole, ça mérite l'approbation. Aider son prochain, ça mérite l'approbation. Donc, c'est ce que, en fait, ça c'est ce que Jésus qui disait. Il faisait comme ça, il pensait comme ça. Il marchait en route, il s'arrêtait. Une personne avait un besoin,
Il guérissait la personne. Il parlait à la personne. Donc, il fonctionnait dans ceci. Ce qui est vertueux est digne de louange. Waouh! Hallelujah! Ce qui vient après, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé, c'est ça qui doit être dans nos pensées. Pour dire en fait que l'ennemi n'a rien trouvé de lui à nous. C'est ça, on doit méditer sur cela. On doit être le garde-fou dans notre tête. Vrai, honorable, juste, pur, aimable, payé la proportion, vertu et digne de louange. Jésus-Christ marchait dans cela. Nous devons aussi marcher dans cela. Nous sommes appelés à marcher dans ceci. Quand on le fait, c'est là maintenant qu'on garde la victoire de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on fait pour avoir les pensées de Christ. Donc, bien-aimé, Jean 14, 30 dit, « Car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. » Quand il va venir, il faut qu'il trouve tous les pensées, nos pensées, ce qui est honorable, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui met l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Souvent, on est préoccupé par beaucoup d'autres choses. Mais on oublie que nos pensées doivent être gardées, que nos pensées doivent être purifiées, que nous devons avoir les pensées de Christ. Donc, mettons ce soir les pensées de Christ à nous et marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Vous donnez ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.